Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Intéressant.
Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis avec Jerry Gitani et Laurent Cuvier ce soir dans cette émission. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ?
Beaucoup.
Bonsoir, ça va ?
Ça fait un petit moment qu'on s'était pas...
Effectivement, voilà. Il y a eu des empêchements à gauche à droite, donc voilà, bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a.
La vie, la vraie,
comme on dit. Voilà exactement. Émission un peu particulière parce que vous l'aurez peut-être noté, notamment toutes les personnes qui s'intéressent au Rome Fest Paris cette année, il y a le grand retour des Rome Fest Awards, le fameux concours où un certain nombre de jurés vont déterminer par catégorie les meilleur Rome, on va dire, de ceux qui sont inscrits. Voilà, un concours dont on va parler. Et d'ailleurs, on va aborder le sujet un peu plus en profondeur en parlant des concours en général, ainsi que comment ils sont organisés, comment ça se passe et la valeur qu'on peut éventuellement leur consacrer. Mais avant de faire ça, nous allons d'abord donner la parole à notre cher Laurent, comme d'habitude, pour nous présenter les news qui sont une fois de plus proposées, sponsorisées par excellencerome.com, votre caviste en ligne ainsi que physique sur Paris, pour ceux qui sont dans la région parisienne, avec quand même plus de 5000 références, nous tenons à le dire. Voilà, ils pourraient faire les Excellence Rome Awards, en fait, je pense, avec le nombre de références qu'ils ont.
Oh, la bonne idée.
Très bonne idée. Bon, Laurent, c'est à toi, vas-y.
Bien, le bonsoir. On commence par une célébrité, Éric Judor, que l'on voit passer dans plusieurs vidéos liées au Rhum depuis quelques temps, lance son cocktail prêt à boire et son nom, le jus d'or. Voilà, voilà. Le jeu de mots est absolument incroyable. Si quelqu'un le goûte, l'a goûté, n'hésitez pas à nous en parler. La collection Guillaume de Roani avec les Rhums du Sud s'étoffe encore avec cette fois le second batch de l'assemblage Guatemala-Barbade à 52%. Mais ce n'est pas tout, puisque la 24e cuvée de cette collection, elle, consiste en un rhum agricole des Antilles de 4 ans, au finish en fût de vieille prune. Curieux de ce que ça peut donner.
Effectivement.
Longto nous sort la galerie, qui semble être un assemblage original de rhum vieux et de rhum blanc, si j'ai bien compris. Donc c'est une des premières fois que je vois ce genre de blend. Et le design de la bouteille ainsi que du carton sont l'œuvre de l'artiste Chuck Wan. Et c'est fort joli.
Ils appellent ça comment, du coup, juste assemblage, ou est-ce que c'est une appellation rhum vieux, blanc?
Je ne pense pas qu'ils puissent...
Ambré.
C'est ni un ambré, ni... ils peuvent appeler ça d'aucune manière, d'après ce que j'en
la
pense.
La galerie.
Mais c'est pas grave, après tout.
La galerie, voilà.
Voilà, c'est ça. Agricole toujours, avec HSE qui annonce la sortie de la gamme Les Forêts by HSE, travaille sur des fûts issus de chênes originaires de forêts précises et aux chauffes particulières qui leur sont associées. Les deux premières références sont Les Forêts de Chantilly et de Montpensier. Ce sont deux millésimes 2015, qui sont en gros, entre 51 et 52% d'alcool.
Est-ce qu'on sait où se situe ces forêts?
Chantilly, j'imagine, c'est vers le Chablis de Chantilly. Montpensier, j'ai pas vérifié. Ça me parle moins. On espère pouvoir y goûter au Rumfest, il n'y a pas de raison. Et enfin, Manao. Manao qui nous gratifie d'un nouveau rhum blanc, celui-ci étant maturé 18 mois en amphore d'argile, donc maturé, j'imagine réduit également, ou pas, on pourra aussi poser la question au Rumfest. En tout cas, moi, ça me donne envie. Et voilà pour aujourd'hui.
C'est tout ?
Ouais.
Ok. Bon, pour information, la forêt de Montpensier se situe dans l'Allier. Voilà. Comme ça.
Ben voilà.
Comme ça, vous le savez, pour la petite info.
On sait tout. On sait tout.
Très bien, merci beaucoup pour ces quelques news qu'on retrouvera bien évidemment dans la prochaine émission avec d'autres news. Je pense que plus on va se rapprocher du Rumfest, justement, plus il va y en avoir. C'est un peu comme ça que ça se passe.
Je pense qu'on va s'en prendre un paquet.
Ouais. Donc autant les étaler sur les émissions à venir. En parlant de Rumfest,
ce sera jusqu'à janvier 2025.
Oh, il y a des chances. Surtout qu'entre temps, il y aura d'autres salons, il y aura le Whisky Live.
Ouais, c'est ça.
Alors, en parlant de Rome-Fest, justement, donc comme on le disait en début d'émission, comme vous l'aurez remarqué d'ailleurs, le retour des Rome-Fest Awards. Donc les Rome-Fest Awards n'avaient pas eu lieu depuis un bon bout de temps, jusqu'à 2017, 2018. Si ma mémoire est bonne, entre-temps, il y a eu les ISS Awards qui avaient un peu pris le relais pendant la période de Covid, avec un fonctionnement un peu différent. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer, je pense que tous les trois on a été juges pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux à un moment donné dans notre carrière, mais je propose peut-être que vous pourriez nous expliquer la différence entre les Rome Fest Awards et les ISS Awards dans un premier temps.
Jerry ? Non, j'y vais. Bon, la différence principale, selon moi, c'est qu'il y en a les Rome Fest Awards. Tous les jurés sont rassemblés au même endroit.
Avant le Rome Fest.
Il y a des
juste avant le Rome Fest, voilà.
C'est ça. Il y a une phase de présélection sur plusieurs jours où il y a déjà un paquet de Rome qui sont mis de côté. Et puis ensuite, il y a les phases finales sur deux jours, exactement les deux jours qui précèdent l'événement.
Avec un panel différent, d'ailleurs, il me semble.
Absolument.
C'est pas même jury. Peut-être que c'est pas même jury.
Il est possible que certaines personnes se retrouvent dans les deux, mais a priori, en effet, la majeure partie ne seront pas les mêmes pour les présélections et les phases finales.
Les phases finales,
donc, c'est voilà,
plus,
ça c'était.
Ils profitent plus du fait qu'il y ait des intervenants étrangers qui se déplacent pour Absolument. Le Rome Fest et donc pour les intégrer dans ce truc-là.
Et puis, alors que les ISS Awards, eux, c'était justement pendant la période Covid, entre autres, enfin, c'était une des manières de circonvenir ce problème, à savoir que les échantillons étaient envoyés chez les jurés, qui avaient une période de 3-4 semaines pour se livrer à toutes les dégustations et remplir les notes et les profils, les indications sur un site dédié. Donc voilà, ça c'était, on s'organise à la maison chacun de notre côté, alors que les Rome Fest Awards, plus traditionnellement d'ailleurs, hein, pratiquement l'intégralité des concours fonctionnent comme ça, c'était en un lieu unique où tous les jurés se rencontraient.
Alors, après pour les ISS Awards, on avait également l'avantage, on va dire, de pouvoir bénéficier d'un panel de juges beaucoup plus international pour le coup. Puisqu'ils envoyaient les échantillons mondialement, donc on avait autant des juges au Brésil, aux États-Unis, enfin un peu partout.
En Inde. Mais ce qui posait parfois un peu problème aussi à l'organisation, si j'ai bien compris.
Parce que quelquefois, les échantillons n'arrivaient pas, c'était compliqué. Ouais, c'était vraiment une organisation très particulière, très contraignante, et sans doute coûteuse, je pense. Parce qu'il fallait faire les échantillons, les samples, hein, puisqu'ils ne pouvaient pas envoyer de bouteilles comme ça se fait au Rome Award, par exemple, où on reçoit vraiment les bouteilles. Et voilà, quoi, il y avait cet aspect-là, un peu, on peut dire, qui pouvait être gênant pour certaines catégories.
Alors la précision, quand même, c'est que pour les ISS Awards, les échantillons étaient numérotés, mais personne ne savait exactement ce qu'ils dégustaient, en fait. C'est-à-dire que
c'était à l'aveugle.
C'était par catégorie. Je sais qu'on avait les catégories,
Catégories, et puis
c'était complètement Rome agricole, Rome arrangé, etc. Mais ça s'arrêtait là, et sinon, à part ça, on n'avait pas beaucoup plus d'infos. Donc les gens ne savaient pas ce qu'ils dégustaient.
Il y avait le degré, si je me rappelle.
Le degré, la catégorie. Cela dit, dans les autres concours, c'est pareil, hein, ça se fait à l'aveugle. Il ne faudrait pas laisser entendre que les autres concours.
Non, bien sûr. Alors après, je pense que la difficulté pour les ISS Awards, ou du moins ce qui était peut-être un peu plus contraignant ou subjectif, c'est que forcément, si chacun s'organise soi-même pour déguster ses échantillons sur un laps de temps plus ou moins court en fonction du temps des gens et de leur envie, de leur motivation, de leur culture, etc., les conditions de dégustation ne sont clairement pas les mêmes pour tout le monde.
Ben non, parce que tu avais le temps qui était différent. Donc, il faut dire qu'on avait pratiquement un mois pour la dégustation. Donc chacun pouvait s'organiser comme il le voulait, dans un lieu différent, dans des ambiances différentes. Et effectivement, ça peut avoir un impact sur le jugement qu'on peut avoir sur ce qu'on déguste.
Voilà,
personnellement, je préfère qu'on soit tous dans un même lieu et ensemble.
Mm-hmm. Ouais. Mais
bon. Ne serait-ce que pour partager des avis, d'ailleurs.
Partager les avis pas avant, pas pendant.
Oui,
on peut s'échanger des appréciations.
Ouais. Ça arrive. Il y a toujours des mauvais élèves qui papotent pendant
tout ça sur des échantillons à l'aveugle, il faut bien le préciser.
Ouais. Effectivement. Et puis il y avait aussi le fait que certains, en fonction de la vitesse de dégustation, etc., il y en avait peut-être qui prenaient plus leur temps, qui avaient un mois et donc qui utilisaient vraiment tout le mois. Il y en a d'autres qui essayaient de faire le travail en quelques jours. Il y avait quand même un grand nombre d'échantillons à déguster, hein. De mémoire.
Surtout la première année, je crois.
Ouais, la première année, année personnellement, j'en ai eu 80, ce qui était pas mal.
Ouais, moi, j'avais 75 en tête.
Voilà, donc, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et la deuxième année, il y avait plus de juges, mais moins d'échantillons. Et puis surtout, pas tout le monde dégustait la même chose. Qui est une grosse différence également. C'est-à-dire que les échantillons, en fonction des juges, n'étaient pas les mêmes. Alors que plus traditionnellement, dans un concours comme les Rum Fest Awards, tout le monde déguste la même chose en même temps ou au même endroit. Voilà, c'est plus ça, une des grosses différences, je suppose.
Moi, je rejoins Jerry sur le fait que c'est quand même sympa de se retrouver. Outre la dégustation en elle-même, ça permet d'échanger, de revoir des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est quand même bon enfant, même si ça reste studieux. Donc ça, c'est agréable. Par contre, au niveau de la dégustation en elle-même, alors en effet, ça dépend des conditions dans lesquelles les gens la font, cette dégustation. Mais moi, qui ai l'habitude de beaucoup déguster à la maison, etc., je trouvais qu'il y avait un côté quand même relativement confortable et où je pouvais prendre un peu plus de temps, puisque les Rum Fest Awards, c'est à peu près une quarantaine par jour sur les finales, si je ne dis pas de bêtises, donc une vingtaine le matin, une vingtaine l'après-midi sur deux catégories chaque demi-journée, donc ça fait quatre catégories en gros. Et à la maison, moi, c'est vrai que du coup, je me faisais mes petits line-up de 5-6 samples par jour. Pas tous les jours, du coup, c'était pas nécessaire. Et je prenais un peu plus de temps. J'essayais d'aller un peu plus au fond des choses. Donc, je trouvais ça agréable aussi.
C'est vrai, je te rejoins. C'est vrai que pour les ISS Awards, je faisais des sessions, effectivement, de 5... Ouais. 5 à 10 par jour, soit 5 le matin ou l'après-midi, pas chaque jour forcément. Et je prenais énormément, beaucoup plus de temps que quand je suis dans un lieu, comme on dit, pour les Rum Fest Awards. Malgré tout, je me suis rendu compte quand même, après deux ISS Awards, que mes résultats finaux n'étaient pas forcément différents de mes premières impressions.
D'accord.
Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de prendre plus de temps ne changeait pas fondamentalement mes notations.
Souvent, la première impression va rester jusqu'au bout, en fait.
Ça arrive assez souvent, c'est vrai.
Après, je pense que la difficulté, c'est peut-être en présentiel, quand on a beaucoup d'échantillons à déguster dans un laps de temps plutôt court, finalement. Hein, 40 échantillons par jour, ça veut dire 20 le matin, 20 l'après-midi. Voilà, il y a un timing à respecter, ce qui est compréhensible. Après, on peut pas monopoliser tout le monde pendant un mois au même endroit. Mais du coup, oui, effectivement, ça peut amener le palais à saturer. Et donc, effectivement, de peut-être être moins efficace ou de moins pouvoir discerner certains arômes vers la fin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on mettait certaines catégories plutôt le matin et d'autres catégories plutôt l'après-midi. Je prends l'exemple des rhums arrangés ou tout ce qui était un peu
c'est
plus
plutôt la fin.
Fantaisiste, c'est plutôt vers la fin parce que c'est peut-être plus facile, entre guillemets, à déguster que d'autres trucs plus pointus. On aura plus tendance à déguster le matin, effectivement.
Et puis aussi parce que c'est compliqué d'enchaîner après des trucs très édulcoré sur des produits qui ne le sont pas. Donc il y a un ordre logique quand même.
Voilà, d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, comme moi, cette année, il y a beaucoup plus de juges. Je ne sais pas si vous avez. Je crois qu'il y a 25 ou 30 juges pour la session.
Sur la finale.
Pour la session. Mm-hmm. Et j'ai cru comprendre qu'on ne va pas tout déguster, justement. Qu'il y aura une répartition des dégustations pour justement éviter cette saturation.
En fait. Voilà.
Ouais. Ok, c'est bon à savoir.
Donc c'est peut-être un truc qu'ils ont appris des ISS Awards en se disant c'est peut-être plus facile. Ouais. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier concours, tous les deux? Le premier concours où vous avez été juge?
Moi, je me souviens.
Je me souviens
parce que le premier, c'était à Berlin, en fait. Grâce à Benoît, d'ailleurs.
En 2014?
En 2014 ou 2015, ouais. C'était mon premier concours, ouais. Donc, je crois que j'étais le seul Français, d'ailleurs, il me semble. Mm-hmm. Et puis, il n'y avait que des internationaux et vraiment des gens qui ont attaqué à l'époque, qui étaient des pionniers un peu dans le domaine de la dégustation.
Je pense qu'il y a eu un vrai mouvement suite à la... Enfin, les premiers Rome Fest Awards ont donc eu lieu à Paris en 2014. Et à cette occasion-là, effectivement, il y avait énormément d'internationaux qui y participaient. J'ai eu l'occasion moi-même d'en faire partie à cette première édition, donc il y a cela 10 ans maintenant. Et effectivement, c'était un regroupement de alors pas que de passionnés, mais également de professionnels, des organisateurs de salons, des dégustateurs, il y avait quand même des pointures. Pour en citer quelques-uns, il y avait Robert Burr, donc l'ancien organisateur du Rumfest de Miami. Il y avait Dirk Becker, donc du Rumfest de Berlin. Il y avait Leonardo Pinto du Rumfest de Rome. L'organisateur du Rumfest de Madrid, tout ce genre de personnes-là. Et du coup, pour de nombreux, se sont rencontrés pour la première fois à cet endroit-là. Pour beaucoup. Certains se connaissaient déjà, mais beaucoup se sont rencontrés là. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils ont commencé à s'inviter les uns les autres à leur salon, puisque tous avaient décidé de reproduire ce système de concours né à Paris dans leur propre salon. Donc, ça a été le cas à Berlin, effectivement, où Jerry est venu par après. Il y a eu le cas également en Espagne, en Espagne, à Madrid, encore à l'époque, qui eux aussi l'avaient fait. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu Barcelone. C'est ça. Il y a eu pas mal de concours qui ont suivi grâce à ça, mais il faut dire ce qui est, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Paris, les Paris Rome Fest Awards ont bien été les premiers en 2014. Et donc c'était il y a déjà 10 ans. Entre-temps, il y a pas mal d'autres personnes, d'autres personnalités et surtout d'autres profils qui se sont invités en tant que juges à ce genre d'événements. On parle notamment il y a eu des journalistes spécialisés qui se sont, Laurent, t'en es bien la preuve. Il y a eu certains blogueurs, influenceurs, présents sur YouTube, sur Instagram, etc., qui également ont été sollicités pour l'exercice. Et puis voilà, en fonction que l'industrie est évoluée et changée, d'autres profils se sont rajoutés, d'autres sont partis, etc. Enfin voilà, ça a été une expérience assez intéressante et enrichissante, surtout autant culturellement que pour les rencontres. Parce qu'on a finalement réussi à rencontrer énormément de monde, ne serait-ce que par ces Rome Fest Awards.
Alors toi, tu parles de premier en 2014, mais bon, avant les Rome Fest Awards, il y avait quand même déjà le concours général agricole. Alors Laurent, toi qui fais les deux systématiquement, ou le plus souvent, est-ce que tu peux te dire la différence qu'il y a entre ces deux concours?
Alors déjà, c'est marrant parce que du coup, à la question de Benoît, je viens de vérifier sur mon blog, qui est un peu mon second cerveau, c'est là où toute ma mémoire est. Et donc, mes deux premiers salons étaient en 2015, pour commencer le CGA et ensuite les Rome Fest Awards. Alors, il y a plusieurs différences entre les deux. Alors déjà, le nombre de produits dégustés par juré est infiniment moindre au CGA, puisqu'en général, on tombe sur une table avec une catégorie très précise et qu'on a juste une catégorie dans la journée. Alors, ça dure environ 1h30 et on a entre 4 et 7, 8 produits. Ça va rarement plus dans le rhum, sur d'autres catégories du CGA, il peut en avoir plus. Mais... Donc, il y a ça d'un côté, alors que comme on le disait sur les Rome Fest Awards, et la plupart des autres concours, ça va être toute la journée avec plein de catégories différentes et chaque juré en dégustera beaucoup plus. Ça, c'est vraiment une grosse différence. Après, au niveau des détails de l'organisation, entre guillemets, les deux sont plutôt bien foutus. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, cela va sans dire, des crachoirs, un peu de pain, de l'eau à volonté, pour pouvoir reset un peu les papilles entre chaque dégustation.
Et il y a un café. Ça s'est vu aussi dans certains concours. Ouais.
Et puis, l'autre grosse différence, selon moi, c'est que au CGA, le concours général agricole, les jurés doivent se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'à une table, le nombre des médailles et le métal des médailles doit être un consensus sur la table, ce qui n'est pas le cas au Rome Fest Awards, puisque chacun remplit ses notes.
Alors, je voudrais rajouter, Laurent, parce que tu as passé un peu vite là-dessus, sur les catégories. Pour moi, c'est une grosse différence. Parce qu'au concours général agricole, tu as des catégories où tu vas juger les rhums arrosés, donc forcément que les rhums de la Martinique.
C'est vrai.
Après, tu vas j'ai les Roms de Guadeloupe en Rhum Blanc. Donc, ouais. Le but, c'est de donner des médailles, en fait, en fonction des points qui sont acquis. Alors qu'au Rhum Fest Award, si on prend les Roms Blancs, eh ben, c'est tout... toute catégorie, j'allais dire, non AOC, AOC, c'est du pur jus. Et là, on va essayer de donner la meilleure note et de dire ce qu'on a préféré. Et là, ce sera un classement, en fait. C'est pas juste une médaille. C'est-à-dire qu'on va... Il y aura une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, c'est tout. Il y aura pas deux médailles d'or, trois médailles d'argent, etc. dans la même catégorie. Ouais, ouais. Donc, c'est ça la grosse différence pour moi.
Il y a un podium, en fait.
Voilà, exactement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a un podium. Et c'est toute catégorie confondue dans une catégorie déterminée, évidemment. Les rhums pur jus, les rhums de mélasse, etc.
Ouais. Ouais, non, t'as raison, bien sûr, c'est hyper important.
Alors, et puis la constitution des jurés aussi, qui est un peu différente, puisque le CGA, c'est qu'il faut être français, en général, normalement, sauf exception.
Oui,
et
oui,
puis, il y a mal de néophytes, effectivement, sur les tables.
Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui soit sont peut-être spécialisés sur d'autres produits, d'autres spiritueux ou pas. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait et qui arrivent ici au CGA pour la première fois. Est-ce qu'ils sont simplement des amateurs éclairés ou pas? Il y en a vraiment, c'est un peu des novices, mais et d'autres. Et aussi une différence, si je ne dis pas de bêtises, c'est que dans les jurés du CGA, il y a des producteurs.
Ouais, c'est ça, il y a des professionnels de l'industrie, oui.
Ce qui n'est pas le cas au Rhum Fest Awards.
Ce qui n'est pas censé être le cas au Rhum Fest Awards. Ouais.
Alors, théoriquement au CGA, je dis bien théoriquement parce que je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais un producteur, imaginons, de Guadeloupe ne doit pas être juré sur une catégorie de Rhum de Guadeloupe.
En théorie.
Ouais, je ne sais pas s'il y a des contre-exemples. Je ne sais pas si Jerry t'en a en tête. Moi, ça ne me dit rien.
Non, je n'ai pas d'exemple. J'ai eu des producteurs à ma table, mais ce n'était pas sur des Roms de leur région ou de leur pays. Ouais.
Alors qu'au Rhum Fest Awards, je me souviens, il y a effectivement cette règle qui dit qu'un producteur ou un représentant de marque n'ont pas le droit de participer si la marque pour laquelle ils travaillent est présente dans le concours. En fait. Voilà, c'est ça. Je sais que j'avais eu le cas à l'époque quand j'officiais encore comme ambassadeur pour Depaz, je n'ai pas pu participer au concours justement parce que Depaz avait présenté ses produits au concours et que du coup, ce qui est tout à fait logique, hein, je leur en ai pas voulu pour autant, ce qui est tout à fait logique parce que du coup, ça aurait pu biaiser la subjectivité du concours.
Après, maintenant, comme on disait tout à l'heure, si tous les produits ne sont plus dégustés par tous les jurés, ça pourrait être une manière d'intégrer d'autres...
Ouais. Au niveau du public, il faudrait quand même encore être assez transparent, dans le sens où il faudra préciser que si un producteur est dans le lot, que celui-ci a dégusté autre chose que les produits dans lesquels ces produits sont représentés. Enfin voilà, faut faire attention en termes de communication. Ouais.
Absolument, puis ça complique un peu. On évoquait les médailles. Petite précision sur ce que Jerry disait. Donc, au Rhum Fest Awards, il y a ce podium, ce classement. Au CGA, c'est assez différent puisque il m'est arrivé, moi, de... Enfin, c'est pas parce qu'on est sur une catégorie qu'on va donner des médailles. Déjà, il n'y a pas d'obligation. Si il y a un consensus à la table et donc la table estime qu'il n'y a pas de produit suffisamment qualitatif pour qu'on leur attribue de médaille, on n'en donnera pas. De la même manière, c'est pas parce qu'on décide de donner une médaille que ce sera forcément une médaille d'or. On peut dire, celui-là, il est quand même pas mal. Par contre, lui donner l'or, ce serait un peu trop. Pouf, on lui donne un argent ou un bronze.
Il pourrait y avoir que toute la table, tous les produits dégustés pourraient être médaillés.
Dans ce cas-là, si tout est super bon, comme on peut donner que 30% de médailles par rapport aux produits qui sont présentés, faudra se mettre d'accord sur le ou les deux meilleurs.
Ah, c'est limité à 30%.
C'est 30% maximum.
D'accord, ok. J'ignorais ce
détail. Mais par contre, ça pourrait très bien être deux médailles d'or ou deux médailles de bronze uniquement. Toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez sans doute l'imaginer, mais je crois qu'on l'avait peut-être évoqué dans une autre émission, ça donne parfois lieu à des discussions entre jurés qui sont parfois irritantes, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui arrivent avec des idées très claires en tête, et c'est souvent des producteurs, alors pas du tout des producteurs de rhum nécessairement, hein, puisqu'on peut avoir à d'autres tables de jurés des producteurs d'Armagnac, de liqueurs, de vin, et ils ont cette idée qui peut être défendable, mais que je ne partage pas, qu'ils sont là pour donner des médailles parce que ce concours est là pour aider les producteurs, alors que moi je le vois plus comme un concours pour aider les consommateurs à s'y retrouver. Et de la même manière, ils vont dire si on donne une médaille, il faut forcément que ce soit de l'or.
Chacun dispute un peu le boule gras, quoi.
Ouais. Donc il y a des fois c'est en bonne intelligence, même s'il y a des avis un peu opposés, et des fois c'est un peu plus compliqué.
Il y a déjà eu
c'est intéressant.
T'as déjà vécu des situations où le ton est monté sur certaines tables?
Le ton.
J'ai jamais participé au CGP, donc je sais pas.
Le ton est monté, non, mais j'ai été sur une table où il y avait un producteur d'une marque de rhum connue, qui, bien que ce soit pas des rhums de sa région. Bon, essayer d'influencer quand même en faisant part de son expérience sur la qualité des rhums qu'il produit lui. Et donc voilà, ça s'est arrivé.
Et qui estimait donc que son avis était supérieur à celui des autres. Ouais.
Et que bon, ce rhum-là ne méritait pas de médaille parce que ça ne valait pas ses rhums. Ça s'est arrivé, ouais.
C'est plus ce genre de situation-là où en effet, on va avoir quelqu'un sans que le ton monte, mais on va avoir une et parfois plusieurs personnes qui vont tenter de s'imposer sous différentes raisons. Alors oui, peut-être parce qu'il est producteur de rhum, peut-être parce qu'il est master distiller dans le cognac et que pour lui, cette note qu'il a détectée, c'est un défaut. Parce que dans le cognac, ce serait un défaut. Mais il y a certains rhums qui peuvent avoir des origines, il y a des rhums de La Réunion qui peuvent avoir une particularité vraiment, enfin on les reconnaît souvent. Et un producteur d'un autre spiritueux pourrait tout à fait dire, non là il y a un problème, là ils n'ont pas fait les coupes où il fallait, ils n'ont pas... Ce serait encore... Pour eux, ce serait un truc à mettre à la benne, j'en sais rien.
Les grands arômes. Mais,
c'est plus dans ce style-là, ou alors des gens qui ont une longue expérience, alors soit parce qu'ils y ont travaillé, soit parce qu'ils ont un certain âge et ils estiment qu'ils savent mieux parce qu'ils ont eu l'occasion de déguster, de visiter. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'inverse, moi, il m'est arrivé de tomber à des tables où il y avait... qu'est-ce qu'on avait eu? J'étais avec qui? J'étais avec Jérôme. Jérôme Romeritage.
Ah oui.
Qui depuis maintenant fait vidéo surtout sur la nourriture à la cuisine. Et on était à la même table ce jour-là. Et on avait un monsieur d'un certain âge qui, je crois, était... Martiniquais, je crois que c'est un Martiniquais, pas un Guadeloupéen, il me semble que c'est un Martiniquais, et il nous parle, et à un moment, Jérôme, on partage un peu nos notes de dégustation, il fait, ouais, il y a un petit côté fruit rouge, comme ça, un peu vif, assez sympa, et cette personne à côté lui dit, c'est pas possible, en Martinique, il n'y a pas de fruit rouge. Et du coup, c'est intéressant, parce que c'est de vision, on peut évidemment trouver n'importe quel entre guillemets, n'importe quel arôme dans n'importe quel rhum. Mais donc voilà, ça peut donner lieu à des situations d'échange intéressantes.
C'est toute la subjectivité justement de ce genre de concours, c'est-à-dire que chaque individu qui jugera aura forcément une culture différente, un mode de vie différent, mangera ou aura d'autres souvenirs par rapport à certains mets, etc., qui vont imprégner sa mémoire gustative et donc du coup qui reconnaîtra d'autres choses que les autres. Oui, effectivement, c'est comme il n'y a pas de fruits rouges aux Antilles, cette personne n'est peut-être pas habituée au goût des fruits rouges frais, disons, et donc du coup
alors c'était plus que c'était pas possible
que ce soit pas possible parce qu'il n'y en a pas, oui,
c'était pas possible puisqu'il n'y a pas de fruits rouges.
Oui, alors que pendant les Rumfest Awards ou ce genre de concours là, effectivement, quand chacun, il n'y a pas de place au débat en fait. Il n'y a pas de place au débat parce que chacun note individuellement sur ses fiches et déguste un peu dans son coin. Et donc, du coup, d'ailleurs, faut dire, il y a un peu un silence religieux au moment des dégustations. Hein. C'est à part les quelques-uns
au moins le matin.
Au moins le matin, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'avec
le matin, on remet ses fiches individuellement.
On remet ses fiches individuellement à la fin.
On ne voit pas la fiche des autres jurés.
Non. À l'organisation, et qui, eux, après, de leur côté, vont tout ça, taper tout ça dans un ordinateur, et puis le résultat sera là. Voilà, et là, il n'y a pas de débat possible. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal de concours qui existent encore, certains n'existent plus, mais il y en a pas mal qui existent. D'ailleurs, les Roms ont pris de plus en plus de place dans des concours qui n'étaient pas dédiés aux Roms spécifiquement au départ. Que ce soit le CGA donc qui est multispiritueux, après on a des concours internationaux comme le ISWC par exemple qui est également tout spiritueux, etc. et où les Roms prennent de plus en plus de place, mais je propose qu'on se concentre quand même sur donc les catégories Roms ou du moins les concours spécialisés dans le Rom. Il y en a eu d'autres, hein, même en France il y en a eu d'autres. À un moment donné il y avait il y en avait un autre qui était organisé par un magazine, il me semble, ou par un média. C'était pas dans le cadre d'un concours, d'un festival. J'ai oublié le nom.
Non, attends, il y en a un auquel j'ai participé une fois, et je me demande si... Je sais plus si tu y étais, Jerry. Qu'une seule fois... Alors, je sais qu'il y a eu d'autres occurrences de ce concours-là, mais j'ai participé qu'une fois. Je crois que c'était d'ailleurs la première... organisé par une femme.
C'est ça, on a le même concours en tête, mais je
Jerry,
retrouve
ça
pas
te...
le nom. Le nom ne m'en revient pas.
Moi non plus. Merde.
Mais dans ce cas-là, oui, on a des juges. On a des juges, selon vous, et ça c'est purement subjectif, selon vous, qu'est-ce qui fait les critères d'un juge, ou du moins comment est-ce qu'on devrait pouvoir déterminer les gens qui ont vraiment leur place dans ce type de jury, ou est-ce que tout le monde devrait y avoir accès, ou est-ce qu'on devrait vraiment juste laisser la place à des professionnels? Dans ce cas-là, c'est quoi un professionnel? Vous définirez ça comment? Parce que là, aujourd'hui, dans les Rome Fest Awards, il y a un peu tous les profils. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il y a des amateurs, mais on a donc, comme on disait au début, des organisateurs, des professionnels du milieu, de l'industrie, on a des influenceurs, etc., des blogueurs. Est-ce qu'à un moment donné, c'est trop? Est-ce que c'est un tri? Ou est-ce que c'est bien d'ouvrir la porte justement à des gens peut-être plus néophytes ou moins avec des partis pris dans le milieu?
Non, mais je crois que c'est bien, d'ouvrir, puisque, bon, comme tu l'as plus ou moins dit, ce sont quand même soit des influenceurs, soit des passionnés qui ont l'habitude de déguster... Hein, qui sont quand même connus dans le milieu, hein, par les professionnels ou même par les non-professionnels, mais qui sont dans le milieu. Donc, des gens qui ont l'habitude de déguster, malgré tout. Cela dit, je crois qu'il faut quand même aussi des gens de la profession, parce que, bon, c'est bien de déguster, mais il faut voir... quand un produit a un défaut, il faut quand même le détecter. Et c'est là où je vous dis, par exemple, s'il y a trop de néophytes, ils ne vont pas forcément détecter un défaut dans un produit et lui donner une bonne note. Alors... nous, si on détecte un défaut, on va donner une mauvaise note, forcément. Donc, mais je pense que dans le choix qui a été fait, notamment pour le Rome Fest Award qui va avoir lieu, je pense que les organisateurs ont tenu compte de l'expérience de chacun des jurés qu'ils ont sélectionnés. Même s'il y en a qui peuvent paraître comme nouveaux, tu vois... dont c'est pas le métier, mais qui sont quand même dans le milieu. Je sais pas ce que tu en penses, Laurent.
Si, moi je pense que c'est pas parce qu'on est un pro du secteur, et pro du secteur, il y a déjà beaucoup, enfin l'éventail est large, c'est-à-dire que quand on dit pro du secteur, on veut pas forcément dire producteur ou maître de chef.
Ils peuvent pas durer.
Donc, ça peut être des pros, mais ça peut être... Est-ce que quand on est journaliste spécialisé, on est un pro du secteur? Est-ce que quand on est...
La définition est là.
Ouais.
Commercial, brand ambassadeur, enfin voilà.
C'est ça. Et après, parce que quand on est... Imaginons un brand ambassadeur qui a peut-être fait deux marques dans sa carrière et qui, par ailleurs, n'est pas forcément... hyper curieux de ce qui se passe à côté, il connaîtra très bien ces deux marques et peut-être les concurrents directs de ces deux marques-là, Mais imaginons, lui, il travaille sur des rhums de mélasse distillés à haut degré, enfin des rhums légers. Quand on va passer sur des rhums agricoles distillés en alambic en Asie du Sud-Est, il aura peut-être aucun repère, quoi. Donc je pense que c'est pas forcément le fait que les gens soient des pros ou pas des pros, mais c'est plus sur leur éducation et expérience rhum, en ayant dégusté évidemment le plus de choses possible, ça me semble hyper important, de déguster des choses, si au moins certaines fois ou au moins au début, des dégustations un peu guidées, c'est-à-dire que au départ c'est compliqué de savoir ce qu'on peut attendre, ce qui va être un défaut, ce qui va être une originalité, de la manière dont un rhum va se démarquer ou pas. Donc voilà, il faut beaucoup déguster, des lectures, des compréhensions, enfin il faut mettre tout ça bout à bout, des visites de distillerie, discuter avec des producteurs, des maîtres de jet, etc. Donc c'est tout un éventail de choses, et d'après moi, il y a certains non professionnels, des amateurs éclairés, on va dire, qui ont tout ça mieux que certains pros. Donc la frontière, la limite pro non pro, pour moi, est pas vraiment intéressante, et ça va plus être vraiment sur le côté connaissance et expérience de chacun, quoi.
Tout est dans la définition du pro, en fait.
Ouais.
La différence entre un producteur, ça, comme tu dis, qui va connaître que son produit, et quelqu'un comme toi, qui est malgré tout un pro, puisque tu travailles dans le secteur des spiritueux, même si tu ne produis pas, mais tu es un professionnel du secteur, et tu dégustes des centaines de choses. Donc effectivement, tout dépend de ce qu'on appelle pro, en fait.
Ouais. Après,
on l'a dit, hein, ça peut être des passionnés qui ont l'habitude de déguster, et qui, même si ce n'est pas leur secteur d'activité professionnelle, mais une expérience, une éducation qui leur permettra de juger très objectivement les différentes catégories qui leur seront proposées.
Ouais. Après, on peut penser qu'il y a peut-être d'autres critères malgré tout. Et encore une fois, ce que je comprendrais tout à fait, mais d'autres critères que la pure expérience du juré, puisqu'on peut penser que, il y a aussi quelques choix. J'imagine, j'ai jamais été en position de sélectionner des jurés, mais des choix un peu politiques parfois, politiques, ou en tout cas, c'est peut-être un grand terme, mais je vais inviter telle personne parce que cette autre personne a aussi un salon, aussi un concours, et du coup c'est pas un renvoi d'ascenseur, mais ça paraît logique que j'invite cette personne m'invitera, on crée du réseau. Je pense qu'un organisateur de concours doit aussi avoir au moins dans un pourcentage ce genre de critères en tête.
Oui, c'est ce que je disais au début avec la première édition, où effectivement il y avait un certain nombre d'organisateurs d'autres salons qui eux-mêmes avaient leur concours dans leur propre salon, en fait, effectivement. Est-ce que, comme ça, petite curiosité, est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences lors de ce genre de concours ?
De quel type ?
Je ne parle pas forcément de mauvais produits à déguster, parce que ça, je sais que dans chaque concours, non, il y en a, malheureusement. S'il y a du bon, il y a forcément du mauvais. Mais des mauvaises expériences, peut-être, je ne sais pas, fait que l'expérience n'ait pas été au top.
Moi, je peux penser à quelque chose, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'environnement de dégustation, des éléments externes qui peuvent influencer la dégustation en elle-même. Par exemple, il m'est arrivé, c'était pas cette année, c'était il y a quelques temps, mais c'était au concours général agricole, justement. Le concours général agricole, Benoît Tisateur est multispiritueux, mais c'est même pas que ça, il est multiple. Produits, c'est-à-dire qu'il y a aussi charcuterie, il y a produits laitiers, il y a choucroute, Et du coup, je crois que le concours des rhums, c'est-à-dire que c'est dans un grand hall, et le hall est divisé en au moins deux parties, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux, trois concours qui ont lieu en même temps. Le rhum, depuis 2 ans, a lieu en même temps que la bière, donc ça va, c'est pas un problème. Mais il y avait une année où dans le même hall, il y avait tout ce qui était charcuterie fumée. Donc saucisse de morteau, tout ce genre de trucs. Et ça sentait le fumé partout. Donc c'est un peu gênant.
Effectivement.
Voilà.
Jerry, toi de ton côté ?
Ouais, mais arrivé, mais je crois que tu étais présent.
Si c'est l'anecdote à laquelle je pense, oui, effectivement, je...
Dans un concours, dans un concours à l'étranger ou...
On peut le dire parce que le festival
n'existe plus. L'organisateur a voulu imposer une médaille à un produit qu'aucun des juges n'avait aimé.
C'était même pire que cela, dans le sens où le responsable, ils avaient, donc il y avait l'organisation du salon qui était, on peut le dire, le salon n'existe plus, donc c'était le salon de Barcelone, où effectivement les organisateurs avaient pris quelqu'un pour s'occuper de la partie concours, donc un responsable pour toute l'organisation de la partie concours. Et ce responsable, il s'avère qu'il était un producteur, dont on va taire le nom quand même, voilà. C'était un producteur lui-même, producteur de rhum, mais ses produits étaient dans le concours, donc faisaient partie des dégustations. Lui-même était juge, et c'est lui qui, à la fin, tapait les notes et les tapait dans l'ordinateur à huis clos. Et il s'avère que ses produits ont tous eu des médailles d'or.
Donc nous étions un peu étonnés parce que...
Connaissant ces produits, ce n'était pas... La médaille d'or, en tout cas, ne venait pas de nous deux.
Non,
pour le coup,
je sais pas pour
les autres, pour les autres juges, mais voilà. Et le fait que ce soit plusieurs produits en même temps, on a trouvé ça un peu suspicieux, disons. Et je sais qu'à un moment donné, on a été le voir en lui disant que c'était inacceptable parce que derrière, il y a quand même le nom des juges qui est mis en avant. Et que ça décrédibilise un peu tout le truc. Et je sais qu'on a eu une petite prise de tête avec ce producteur en question lors de ce salon. Salon qui n'a malheureusement d'ailleurs pas très bien fonctionné, mais bon, ça c'était pour d'autres raisons. Et ce salon n'existe plus, ni le concours d'ailleurs. Voilà, mais c'était très particulier comme ambiance parce qu'effectivement on voyait qu'il y avait un problème. Mais le fait d'avoir un juge qui est à la fois juge, producteur, organisateur et qui a ses produits dans le truc, c'était de l'autopromotion en gros. Hein,
et du coup, c'était un producteur de rhum espagnol ?
Oui.
Non, je vais enquêter, j'ai rien qui me,
oui.
me vient forcément.
Oui.
Très bien.
Oui, voilà.
Très bien.
De rhum pur jus espagnol, oui.
Pur jus de canne, voilà, là, tu devrais trouver.
J'imagine que ça vient des îles.
Voilà.
Hein.
Voilà.
Mais bon.
Voilà, on n'en dira pas plus. Il y en a, comme il n'y en a pas beaucoup, on n'en dira pas plus.
Je pense qu'il y a une seule marque, mais après, on ne va pas la citer.
Mais non, c'était assez triste, en fait. C'était assez dommage. Et je sais qu'on a eu, une petite prise de tête par rapport à ça, en disant que c'était inacceptable et que du coup, qu'on a dit qu'on ne reviendrait pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de deuxième édition suite à ça. Enfin, mais il n'y a pas eu de deuxième édition après ça. Voilà.
OK.
Alors justement, on parlait de subjectivité. Est-ce que ce genre de concours peut être un élément... Selon vous, un élément de vente aujourd'hui. Est-ce que le consommateur suit... Alors, Jiri est peut-être bien placé pour nous dire ça, travaillant dans une cave. Est-ce que les gens font attention à ça ? Font attention aux médailles qui sont sur les bouteilles ou...
L'exemple de la cave n'est pas forcément dans le sens de ce que je veux dire, parce que les gens qui viennent sont des gens qui recherchent des produits ou qui connaissent déjà.
En particulier, oui.
Et ne font pas... attention forcément au fait que le produit ait été médaillé ou pas. Par contre, je pense que le consommateur de base qui va aller à son Monoprix ou à son supermarché, qui va avoir un rhum avec une médaille, forcément, son choix va se porter sur la médaille. Il va se dire, s'il a une médaille, c'est que c'est bon, en tout cas, c'est pas mauvais.
Comme pour le vin, oui.
Comme pour le vin, quand tu connais pas, tu dis, bon, il a une médaille d'or, donc il a eu un certain nombre de points, donc c'est dans sa catégorie, il était quand même
c'est
pas mal.
C'est que quelqu'un a trouvé bon, voilà.
Voilà, donc, voilà, moi, dans ce sens-là, c'est de ses vendeurs. Et je pense que d'ailleurs, les producteurs, ils sont très contents d'avoir des médailles, puisque dès qu'ils ont une médaille, ils l'affichent tout de suite, ils en sont très fiers.
C'est vrai, c'est vrai.
Et bon, ce qui est tout à fait normal, bien sûr, puisque tu vas en concours, c'est pour gagner. Et donc, si tu gagnes, tu t'es satisfait et tu sens que je pense qu'ils le voient au niveau de leur vente. Ça doit avoir une répercussion. J'en suis sûr.
Je suis complètement d'accord. Je pense que sur les cavistes hyper spécialisés,
ouais, je sais pas.
Je ne suis pas sûr que ça ait grande influence. En plus, tu as des bons conseillers qui sont là et qui auront beaucoup plus de poids qu'une médaille ou non-médaille. Enfin, donc voilà. Et après, en effet, la personne qui va dans une enseigne moins spécialisée va voir les médailles. Alors après, évidemment, une médaille sur un truc qui va valoir 200 balles, ça ne va peut-être pas répondre à son besoin. Donc, mais dans les catégories de prix, s'il hésite entre 2-3 et qu'il y en a une qui a une médaille, vraisemblablement, et qu'il n'a pas de préférence a priori pour l'un des trois, il se dirigera vers la médaille. Ça me paraît assez logique. Il y avait même une stat, alors je ne l'ai plus, mais il me semblait qu'il y avait des enquêtes qui avaient été faites sur... Non, parce que c'était sur le... Non, putain, t'es pas bête, toi. Au CGA, mais c'était pas forcément sur les rhums, et je crois que c'était peut-être plutôt sur les vins ou d'autres produits, où une médaille d'or, dirons-nous, se traduisait par une augmentation des ventes de temps. Donc, je pense qu'il doit y avoir des stats là-dessus. Et donc, en effet, c'est pour ça qu'ils sont friands de récompenses. Le CGA étant, je crois... le plus réputé, le plus connu en France, en tout cas.
Ouais, c'est-à-dire que les gens qui verront ça auront peut-être plus tendance à y mettre de la valeur ou du poids par rapport à une médaille d'un Rumfest Awards qui va être plus spécifique peut-être et qui du coup touchera surtout les gens qui connaissent les Rumfest, qui connaissent le Rumfest ou les Rumfest Awards.
Voilà, tu parles de valeur de médaille, ça dépend aussi de la valeur du concours. Parce qu'il y a un point on n'a pas beaucoup insisté, c'est ce qui donne de la valeur au concours. Je crois que ce qui est important, c'est la qualité des jurés, ça on en a parlé, mais aussi la qualité des catégories, hein, le nombre de catégories et le nombre de participants. Hein, parce que souvent, on n'a pas le nombre de participants dans une catégorie donnée. Donc évidemment, s'il y a 5 participants dans une catégorie donnée... ou s'il y en a 15, la médaille n'aura pas la même valeur. Donc ça, c'est très important. Et un Rumfest, un Rum Award comme celui de Paris, effectivement, est de qualité parce qu'ils reçoivent énormément d'échantillons de la part des producteurs qui veulent participer. Donc c'est un gage de qualité, de sérieux et de valorisation des médailles.
C'est vrai que je me souviens, on a vu des concours où effectivement des marques avaient été médaillées à multiples reprises dans le même concours, mais qu'en fin de compte, il s'était avéré que c'était la seule marque qui avait envoyé des échantillons. Et donc du coup,
pour la catégorie,
la délibération était rapidement faite. Voilà.
Ouais. Il y a ce phénomène-là, et après il y a le phénomène extrêmement important qui est, comme disait Jerry, c'est pas une information qu'on arrive toujours à avoir. C'est non seulement le nombre d'inscrits, le nombre de produits qui sont présentés, mais après la proportion de médaillés. On a vu des concours où il y avait, peut-être pas l'intégralité, mais 75% des inscrits ressortaient avec une médaille. Alors, en plus, quand on a des...
c'était un peu l'école des fans, quoi. Ouais,
double or, triple machin, dans une catégorie, prix spécial du jury, troisième truc, en bronze de poussette, j'en sais rien. Enfin, c'était, il y avait tout et n'importe quoi.
C'est toi qui as fait cette médaille, le bronze de poussette.
Ouais, en fait, c'est dans un concours que je prépare à Barcelone avec un pote.
Le prix du pub au flacon.
C'est ça. Et du coup, c'est aussi, et tout à fait comme vous disiez, c'est-à-dire que les Rumfest Awards ont cette qualité-là, c'est que même, je suis allé voir sur leur site tout à l'heure, ils mettent le nombre d'inscrits, et c'était un peu plus de 350, si je ne dis pas de bêtises, et ils annoncent à peu près 70 médailles. Donc ça fait que 20%. Donc c'est enfin il y a une vraie valeur et c'est 20% de médailles, mais après ce sera à peu près 7% d'or s'il y a la même proportion des trois métaux. Donc voilà, 7% d'inscrits qui ont l'or, là ça fait une vraie sélection, quoi.
Alors, je pense que il y a une question qui va très certainement revenir dans les commentaires après la diffusion de cette émission. C'est la question: pourquoi est-ce qu'on ne divulgue pas tous les participants d'une catégorie et juste les gagnants? Quelque part, j'imagine qu'on le fait pour ne pas nuire à la marque non plus, si la marque ne gagne pas de médaille.
Oui.
Je veux dire, on parle quand même de commerce, donc à un moment donné, c'est une question de professionnalisme. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se posent la question, si on ne divulgue pas tout ça, c'est tout simplement qu'on ne veut pas, même si la marque n'a pas une médaille, on ne veut pas lui nuire quand même. Donc, c'est juste de la bienveillance à ce niveau-là.
Ouais.
Voilà. Ouais. C'est pas qu'on ne veut pas divulguer ou quoi que ce soit.
Ouais, t'as raison. Et d'abord, je fais un petit erratum au cas où j'étais pas clair. Les données que je citais tout à l'heure pour le Rumfest, c'était pour la dernière édition. Je sais pas combien il y en aura cette année, mais c'était pour l'édition 2018.
Ouais, généralement, c'est annoncé après. Ouais.
Ouais, voilà. Ouais. Et après, oui, bah comme tu dis, les marques qui vont se présenter, elles payent.
Oui, parce que le droit d'entrée, évidemment.
Il y a un ticket.
Ouais, ouais. Des échantillons, on a un ticket d'entrée. Hein, ouais.
Bien sûr, il y a le prix des bouteilles envoyées et puis il y a le ticket d'entrée. Donc, elles payent, elles envoient des flacons. Si c'est pour, au final, en retirer un résultat négatif parce que bah, tu apprends que telle distillerie était dans telle catégorie et qu'ils ne sont pas dans les médaillés, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, donc je comprends tout à fait, même si après d'un point de vue consommateur, moi le premier, ce serait hyper intéressant de connaître tout ce qui a été présenté. Alors ça va sans dire, mais malgré tout je comprends que ce soit pas le cas. C'est dommage.
C'est effectivement dommage. Je me souviens que dans certains, généralement à la fin des concours, comme les Rumfest Awards, je sais que les juges, on va voir ce qu'on a dégusté généralement. Donc tout est étalé sur une table. Et donc voilà, dans cette catégorie, il y avait ça. Sauf qu'à ce moment-là, on n'a pas encore les résultats. Et les résultats tomberont ou sont généralement divulgués au moment du salon. Enfin, de temps en temps dans une cérémonie ou pas. Mais ouais.
Et Laurent, tu as parlé de flacons, mais bon, je crois que c'est un abus de langage. Tu voulais parler de bouteilles, parce que c'est des bouteilles qui sont envoyées.
Absolument.
C'est des bouteilles qu'on trouve dans le commerce. Il ne faut surtout pas que ce soit des flacons. Il faut que ce soit le même produit qu'on retrouve dans le commerce.
Flacons-bouteilles, voilà. Oui, absolument.
Alors justement, c'est très bien de relever ce point.
Juste un truc, Benoît. Moi, j'ai le souvenir qu'au Rumfest Awards, à la fin, tu ne sais pas ce qui avait été présenté. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu la liste de tous les produits qui étaient présents dans une catégorie.
Ça a été fait à une époque, je ne sais pas si ça a été fait à la fin mais à une époque, ça a été fait où effectivement, une fois que la dégustation était terminée, l'organisateur mettait les bouteilles en avant et disait, voilà, telle catégorie, vous aviez ça, sans dire pour autant ce qui était gagnant ou pas. C'est-à-dire qu'on savait, tiens, le numéro 3, par exemple, dans telle catégorie, bah, c'était tel produit.
Voilà.
Mais on n'avait pas les résultats.
Avant les résultats, on avait accès aux bouteilles qui avaient servi.
Et bien, même
pour chaque catégorie.
Même ça, sur les dernières éditions, je ne suis pas sûr que ça ait été le cas.
Ça, c'était sur...
je crois que c'est peut-être quelque chose qui a été enlevé après.
Ça, c'était surtout à Berlin, Benoît, qu'on avait ça.
C'était surtout à Berlin. Ok. Peut-être pas à Paris, du coup.
Je sais qu'à Berlin, effectivement, c'est dans une autre pièce.
Systématiquement, à Berlin, on voyait tout ce qu'on avait dégusté, on y avait accès.
Et donc, souvent, les gens faisaient des photos avec leur portable, des notes qu'ils avaient prises pour voir, ah bah tiens, tel produit, qu'est-ce que mieux j'ai noté, etc.
Ouais.
Donc, ça faisait encore des débats supplémentaires, mais après concours, qui du coup n'avaient plus aucune utilité et qui ne servaient plus à rien.
Alors, c'est juste pour le front, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on se rendait compte, malgré la diversité des juges et de leur formation, de leur expérience, de leur vécu, de leur origine, qu'il n'y avait pas de si grande divergence en fait, par catégorie. Ça pouvait arriver, mais en général, les notes était quand même assez proche.
Était assez similaire.
Donc ça, il faut le souligner.
C'est rare quand il y avait vraiment de gros écarts entre les notes. Alors, on parlait du fait que les marques envoient les bouteilles, payent pour que les bouteilles soient représentées dans le concours. Je sais qu'avec Jerry, on a organisé un concours nous-mêmes, donc en Martinique, il y a de ça quelques années. Et à cette occasion, on avait procédé un peu différemment dans le sens où, plutôt que d'attendre que les marques nous envoient les bouteilles, et pour être beaucoup plus neutre en termes de mise en avant, de qui a payé, qui n'a pas payé, et quand même avoir plus de produits peut-être, on a fait en sorte que ce soit le concours, l'organisation qui achète les bouteilles dans le commerce ensuite les déguster. Alors effectivement, ça n'a pas plu à l'époque à un certain nombre de producteurs pour diverses raisons, parce que bah, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément envie de participer à un concours.
Et que leur produit était présent.
et que leur produit était présent. Encore moins du coup de se rendre compte qu'ils aient la possibilité de perdre alors qu'ils n'ont jamais rien demandé à personne. Ce que je peux comprendre. C'est tout à fait compréhensible. Ouais. C'est peut-être le côté négatif de ce sens-là. Mais de l'autre côté, par contre, ça reste beaucoup plus ouvert et beaucoup plus... beaucoup plus complet. Ça évite justement que dans une catégorie, on est...
Voilà, ça nous avait permis d'avoir suffisamment de produits dans chaque catégorie.
Ah bah ouais, grave.
Voilà. Et du coup,
ne serait-ce que... Ouais, moi j'adorais faire ça sur tous les rhums blancs pur jus de canne disponibles. Voilà, j'en fais suffisamment des dégustations à l'aveugle de ces produits-là j'adorais.
Je prends l'exemple, on avait effectivement une catégorie qui était rhum blanc AOC Martinique de plus de 50 degrés. De 50 à 55 degrés justement, dans laquelle il y avait... un peu tout ce qu'on pouvait trouver en Martinique dans cette branche-là, dans cette catégorie-là, effectivement. Mais voilà, d'un autre côté, je peux comprendre qu'en tant que producteur, ça ne puisse pas forcément plaire quand on n'a rien demandé à personne et que du coup, en plus, on ne gagne pas de médaille.
Qu'est-ce que tu veux faire en tant que producteur ? Enfin, je comprends que ça ne te plaise pas forcément, mais tu n'as pas de recours quel qu'il soit. C'est juste, ça ne m'a pas plu,
Partant du principe que toute l'organisation du salon en soi était déjà assez
compliquée,
le concours était la moindre des choses, était franchement le plus gros problème. Voilà. L'ambiance était tout autre.
Très bien.
Voilà. Écoutez, mes amis, on touche déjà à la fin de cette émission. Parce que ça fait un moment qu'on papote. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans deux semaines avec nos chers auditeurs. D'ailleurs, merci de toujours nous écouter sur les différentes plateformes habituelles, que ce soit sur YouTube, Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, même sur les réseaux sociaux, ou nous envoyer tout simplement vos avis, vos petits messages via les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. On les lit tous, des fois avec un petit différé, mais on les lit. Et généralement, on y répond. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast.
Des idées de sujets aussi, n'hésitez surtout pas.
Les idées de sujets sont toujours le bienvenu, parce que je sais que des fois, il nous arrive à avoir quelques soucis justement pour être créatif à ce niveau-là. On a des équipes qui ne sont pas forcément très, très créatives à certains moments de l'année. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines avec une nouvelle émission, avec, je l'espère cette fois, Olivier, qui sera parmi nous. Espérons-le. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous écoutez cette émission, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.
Bye bye.
À très bientôt. Bye bye.
Mes amis, que cette journée reste à jamais celle où vous avez écouté le Single Cast.